La Légion bretonne et autres nouvelles de la forêt d'Orléans. De Frédéric Dulinière, édition de l'Écluse. L'autre. Dans cette forêt baignée d'humidité et de chaleur moite, ils marchaient depuis d'interminables jours quand ils le virent. Ils étaient épuisés par cette pluie incessante et ils grelottaient de fièvre dans leurs vêtements mouillés. Ils avançaient, mettant mécaniquement un pied devant l'autre, comme dans un état somnambulique. Ils enregistraient machinalement ce qu'ils voyaient du monde qui les entourait. Arbres géants où s'agrippaient des lianes couvertes de fleurs aux teintes vénéneuses, mousses et champignons gluants qui tapissaient le sol, oiseaux multicolores zébrant leur chemin d'un vol brusque. Ils entendaient aussi les bruits de la forêt, chants, glapissements, fuites précipitées. Aussi mirent-ils un moment à réaliser que tous ces bruits s'étaient tus. Un silence soudain s'était établi, troublé seulement par le son de leurs pas et de leur respiration. Surpris par ce calme, ils s'arrêtèrent en même temps tous deux. Et c'est alors qu'ils le virent. Il leur apparut comme un être chétif dont le corps était d'une blancheur maladive. Il était recroquevillé dans le creux d'un tronc d'arbre qui leur barrait le chemin. Il ne bougea pas à leur approche. Il semblait dormir. Autant qu'ils purent en juger au premier regard, il était entièrement nu et les gouttes de pluie perlaient sur sa peau translucide qui prenait, dans la lumière filtrée par la végétation, des nuances vertes. C'était la première fois depuis qu'ils exploraient cette forêt qu'ils rencontraient un être d'une espèce proche de la leur. Ils n'osaient ni bouger, ni parler en sa présence de peur de l'éveiller en sursaut et de le rendre agressif. Ils demeuraient là, immobiles, au milieu de la trouée qu'ils avaient ouverte à la machette. Interdits et intrigués. Effrayés aussi à la vue de cet individu qui leur paraissait à la fois si semblable et si différent d'eux. Déjà dans leur esprit, ils l'avaient baptisé « l'autre », car il leur apparaissait comme environné d'une aura d'étrangeté et de mystère. Il leur sembla qu'ils étaient là depuis des heures à l'observer, quand soudain, il ouvrit les yeux et parut s'éveiller. Des yeux immenses, d'un vert profond, qui dévoraient tout son petit visage triangulaire. Des yeux qui se fixèrent immédiatement sur eux sans ciller. Des yeux dans lesquels ne se reflétaient ni peur, ni surprise, ni sentiment d'aucune sorte. Des yeux vides qui les glacèrent de terreur. Pourtant, l'autre ne montrait aucun signe d'agressivité. Son corps avait l'attitude détendue d'un corps qui s'éveille, et son visage l'expression un peu absente de quelqu'un qui ne sait plus trop bien où il est après un long sommeil. D'un mouvement souple et rapide, il se leva et, avant qu'il n'ait le temps de réagir, avant même qu'il ne l'ait vu bouger, il fut devant eux. Tout proche. Si proche qu'ils reculèrent d'un pas. D'un geste du bras, il les désigna, se désigna lui-même, puis émit une sorte de chant modulé et inarticulé, entrecoupé de curieux clappements. Se sentant un peu rassurés, ils essayèrent de lui parler. Mais il ne paraissait pas porter attention à leurs paroles, ni même les entendre. Comprenant sans doute que tout échange de cette sorte était inutile, il se plaça bientôt entre eux et, les prenant chacun par la main, leur signifia par geste qu'il voulait les guider quelque part. Il était si petit qu'il leur arrivait à peine à la taille. Ils avaient l'impression d'être conduits par un enfant chétif. Il les mena jusqu'à une grotte où couvait un feu de branchages et leur offrit d'étranges nourritures au goût douceâtre par lesquelles ils se sentirent immédiatement rassasiés. Enfin rassurés sur les intentions de l'autre, ils osèrent lui montrer les pépites d'or qu'ils transportaient dans leur sac et tentèrent de lui faire comprendre qu'ils en cherchaient la mine. Mais l'autre demeurait toujours aussi impassible et ne paraissait pas comprendre leur demande. Puis, brusquement, il disparut. Il se volatilisa dans l'air sous leurs yeux ébahis. Il était là, devant eux, près d'eux, et soudain, il n'y était plus. Ils passèrent un long moment à commenter ce phénomène et à s'interroger sur sa signification et, surtout, sur sa dangerosité. Un tel être ne pouvait avoir que des intentions mauvaises. Les conduire dans cette grotte sans leur demander leur avis, pour s'évaporer ainsi, sans prévenir. Sûrement l'autre méditait un mauvais coup. Lassé de ressasser toutes les intentions malveillantes susceptibles de germer dans la tête de leur étrange compagnon, ils finirent par s'endormir, vaincus par la fatigue. Au matin, l'autre était là. Assis en tailleur près du foyer, il paraissait attendre qu'ils s'éveillent. Il leur donna encore à manger de ces mêmes mets étranges. Puis ils se mirent en route, toujours guidés par lui. Ils étaient réticents à le suivre, mais dès qu'ils tentaient de s'éloigner de lui, il revenait les prendre par la main et les tirait, avec une force dont il n'aurait jamais cru capable une si chétive créature, dans la direction qu'il souhaitait leur voir prendre. Et ils se révélaient incapables de résister à la volonté de l'autre. Contre leur gré, ils le suivaient, comme pris dans les mailles d'un envoûtement. Ils étaient tellement captivés par ce sortilège qu'ils en oublièrent de marquer les arbres afin de retrouver leur chemin au retour. Pendant de longues journées, l'autre les accompagna ainsi, disparaissant le soir toujours aussi mystérieusement. Ils tentèrent de lui faire comprendre, en vain, qu'il n'aimait pas ses façons. Sa manie de la disparition instantanée les inquiétait et les mettait mal à l'aise. Était-il doué d'un pouvoir surnaturel dont il pourrait se servir pour leur nuire? Et où les menait-il ainsi? Il ne parvenait pas à lui faire abandonner cette attitude de les forcer à le suivre et à prendre les directions qu'il choisissait. Et puis aussi, ils étaient gênés par cette coutume qu'il avait d'aller entièrement nu, sans pudeur aucune. Ils tentèrent de l'obliger à se couvrir en le revêtant d'une de leurs chemises qui était assez grande pour lui faire une sorte de robe. Mais, toujours impassible et d'un seul de ses gestes fluides, l'autre enlevait immédiatement l'habit avant même qu'il ne puisse réagir pour s'y opposer. Ils trouvaient aussi que l'autre avait d'horribles manières à table. Non seulement il mangeait goulûment, mais aussi il attrapait au vol les oiseaux qui passaient à sa portée et leur suçait le sang au cou avant de les relâcher. Ils en étaient tous deux horrifiés, terrorisés aussi à l'idée que, la nuit, pendant leur sommeil, l'autre puisse en user de la même façon à leur égard. Et ils ne parvenaient pas à se débarrasser de cette crainte, bien qu'ils n'aient jamais trouvé, à leur réveil, de marques sanguinolentes ornant leur cou. Sous la conduite de l'autre, ils arrivèrent, au bout de longs jours de marche, dans les ruines d'une ville. Cette cité appartenait à une civilisation inconnue d'eux, et les vestiges cyclopéens qui demeuraient encore debout leur parurent datés de plusieurs siècles. Contrairement à leurs espoirs, il n'y avait là aucune mine d'or. Mais ils découvrirent bientôt plusieurs statues, ainsi que de nombreux autres objets, faits entièrement de ce métal. Ils ne pouvaient tout ramener, mais ils remplirent leurs sacs des richesses les moins encombrantes. Quand ils décidèrent de prendre le chemin du retour, l'autre, qui avait disparu tout le temps qu'ils demeurèrent à piller la ville mystérieuse, surgit aussitôt près d'eux. Durant plusieurs jours, il les mit sur la bonne voie avec la même autorité que celle dont il avait fait preuve pour les conduire à la découverte de leur trésor. Ils étaient de plus en plus agacés par ses manières, et aussi par le fait qu'ils ne parvenaient pas à le faire changer d'attitude et adopter une conduite plus conforme à leur propre conception de la normalité et de la politesse. Et ils ne faisaient plus d'effort de cacher leur agacement. Maintenant que l'autre les avait menés vers leur but, ils ne voyaient plus aucun intérêt à ménager sa susceptibilité ou à se concilier ses bonnes grâces. Un soir, ils arrivèrent à l'endroit où l'autre leur était apparu pour la première fois. La pluie ayant alors miraculeusement cessé, ils y établirent leur campement. L'autre, comme à son habitude, s'éclipsa à la nuit. Mais au matin, il ne réapparut pas. Comme le jour s'avançait, ils se résignèrent à partir sans lui. Ils n'étaient pas inquiets car à l'aller, ils avaient soigneusement marqué cette portion de leur itinéraire et ils retrouveraient sans peine la direction de leur patrie. Mais tous les jours suivants, l'autre ne revint pas à leur côté. Il leur manquait. En dépit de l'agacement qu'ils éprouvaient à son égard, ils s'étaient, tout au long de ce périple, attachés à lui sans même s'en rendre compte. Curieusement, ils se remémoraient avec attendrissement tout ce qui les avait auparavant tant inquiétés et irrités quand ils étaient en sa compagnie. Et pour le reste de leur existence, ils gardèrent une inguérissable nostalgie de ce qui faisait la différence de l'autre.